Boulevard 102.1, c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
Bon les amis, je suis en train de regarder le plan pour aujourd'hui que Pascal CV a mis en place. Puis si on réussit à passer au travers de tout ça, de un, vous allez être gâtés, mais de deux, on va être des champions.
Suis-je coupable
des
de ça?
Des champions de la gestion de temps.
Est-ce que ça, c'est positif ou négatif ce que tu es en train
c'est
de dire?
C'est très, très positif, mais c'est toujours des beaux défis que tu m'offres à chaque jour. Un gros merci.
Mais
de
j'ai
le
confiance
faire,
en toi. J'ai confiance en toi pour les relever. Tu es un professionnel.
Exact. Parlant de professionnel, dans les prochaines secondes, on aura nos péteux de broue nationales qui vont venir faire un tour parce que c'est le début de la série finale accédant à la Coupe Stanley ce soir.
C'est pour
donc,
ça que tout le monde est texté au bureau.
Les Oilers d'Edmonton qui affronteront les Panthers de la Floride. Pierre-Hugues Boisvenu va venir faire son tour à l'émission. Lui, il a confronté hier le meurtrier de sa fille, Julie Boisvenu. Il va venir nous raconter comment ça s'est passé, le meurtrier qui était supposé retrouver sa liberté. Donc, Pierre-Hugues Boisvenu qui va être avec nous autres. Valérie Gaudreau, la chroniqueuse du Soleil, va être là. Mon chum Louis Gauthier pour l'actualité internationale. Salut Québec! Va être là aussi. Et Normand Lefebvre va venir, un gars qu'on aime bien, qui va venir nous parler de l'atelier. Il y a un événement qui s'en vient pour ce qui est de l'atelier. C'est le 13e anniversaire
exactement
de l'atelier. Donc, moi, c'est un de mes restos-bars préférés.
J'espère que tu vas en profiter pour moi. Je pourrais pas être là.
Ah, ben c'est peut-être la raison pour laquelle je vais être là ce soir-là.
Ah, oh, c'est tellement ordinaire. T'es ordinaire.
T'es un gars de même.
C'est
comme ça qu'on me décrit.
J'aime bien Châtibien, par exemple. Je vais me consoler avec ça.
Coach Gilbert est en studio. Jeff Fortin qui a dit, hey, moi j'ai été un des premiers péteux de broue, donc Max Larouche n'a pas d'affaire avec
dehors
nous
autres.
Et là, dehors Larouche. On va profiter du temps que Jeff Fortin est là, parce que là, lui, monsieur, il va s'entraîner. Hein. Il nous dit tout le temps qu'il va s'entraîner, on a juste hâte que ça paraisse. Là.
Ouais, moi aussi. Non, mais c'est vrai.
Qui aime bien, chante bien.
Non, mais il a raison, ma médecin de famille me l'a dit hier.
Elle t'a dit quoi?
Ben, elle m'a dit qu'il fallait que je perde un peu de peau.
Hey, t'es plus athlète que nous autres.
Mais voyons, t'es tellement en forme.
Je
tu cours des marathons.
Oui, mais elle m'a dit qu'il fallait que tu perdes un peu de poids parce que j'ai une maladie sanguine, puis là, ma jambe droite ne va pas bien, fait qu'elle dit faut que tu perdes du poids.
Tu fais des matchs, tu t'es rendu les fesses dures comme du béton.
Ben, pourquoi
c'est
ça, tu sais
ça,
toi?
Peut-être qu'il écoute les matchs avec des millefeuilles puis des Doritos.
Ben, ça, c'est pas.
Pour t'entraîner comme un défenseur.
C'est le point. Hier, t'avais Doug Boucher dans Marceau le soir, puis il l'expliquait bien. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, ta musculature est aussi importante que ton cardio.
Ouais. Mais tu sais quoi, le problème, c'est justement
c'est
ça.
Les millefeuilles.
C'est que normalement, ce soir à 8h, j'aurais un petit Miss Vicky original puis une IPA dans les morts. Regardant le hockey.
Ah, mais c'est ça le bonheur.
Parlant du hockey, on va y aller dans les prochaines secondes. Juste avant, qu'est-ce qui se passe sur la route, les amis? 418-971-1021 par texto. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. S'il y a quelque chose qu'on voit pas. Là.
Ouais, ça jamme pas juste dans
les artères à Jeff.
J'allais dire dans les intestins à Jeff, mais je suis sûr.
Non, mais mes selles vont très bien.
Ah, j'ai pas les loups! Désolée.
Pour de vrai, mes selles vont bien. Okay, ça une question de ma médecin.
Ça jambe sur la 20 oui. Est. Sortie 325, c'est la sortie Centreville-Lévis. Ça refoule jusqu'à une bonne portion de la 20. Donc, direction Est. Faites attention, ça jambe sur l'autoroute.
Mais pas dans mes intestins.
Voilà.
Ça, c'est comme quand j'ai traité quelqu'un d'agride en ondes. Des fois, dans ma tête, ça va vite.
Les pétous de brou, c'est maintenant.
Les pétous de brou. Connaisseurs. Expérience.
C'est pas de 20 jours. Ça fait depuis que j'ai la place.
Qui donne leur opinion.
Il doit faire ça.
En tout respect.
Il y en a un qu'un, là. Un petit baveux en bas, là. Ça dort, là. Comment il a bien ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu.
Voici les pétus de brou.
C'est légal. Ouais, c'est légal.
Nos préférés, Coach Gilbert, Jeff Fortin sont en studio pour parler de hockey. Salut, messieurs.
Hey, salut.
On est très contents de vous voir. C'est-tu la fin de la disette, là? Ça fait quoi, 28 ans qu'on n'a pas eu la Coupe cette année?
32 ans.
32, il me manquait 4 ans. Ouais,
c'est ça.
On s'ostinera pas pour 4 ans. 32 ans sans Coupe Stanley, ça se termine maintenant?
C'est la fin de la disette.
C'est la fin de la disette?
J'ai confiance. Cela dit, les Panthers de la Floride sont une équipe exceptionnelle, très bien bâtie, troisième année de suite en finale de la Coupe Stanley. Une équipe qui n'a pas beaucoup de lacunes. Mais à un moment donné, dans le sport, le meilleur gagne un championnat. C'est ce qui va arriver, c'est Connor McDavid.
Les meilleurs selon toi, c'est les Oilers d'Edmonton.
Ouais, mais
coach,
il a raison dans ce qu'il dit. J'espère aussi que ça va être la fin de la disette, mais il y a beaucoup de statistiques là-dedans. Quand tu dis troisième finale d'affilée pour les Panthers, ça peut user son homme, comme on dit. Les Oilers ont eu très mal l'année passée, comme on disait la semaine passée.
Ouais.
Ça fait réfléchir. Puis je pense que les gars sont rentrés dans le camp sachant très bien qu'ils s'en allaient là. c'est, rappelez-vous que si vous écoutez les séries depuis le début de des séries cette année, c'est quoi, c'est combien? 12-2? 12-3? 12-3? 12 victoires, 3 défaites. Ils ont gagné toute la série par 1. 4-1, 4-1, 4-2, je pense.
Exactement.
C'est vraiment une domination cette année des Oilers. Les Oilers sont l'équipe qui marque le plus de buts, au-dessus de 4 buts par match. Ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Là.
Okay. Tu y vas-tu avec les Oilers aussi?
Ah oui, pour cette série-là? Faut qu'ils aillent. Ils sont en mission. Moi, je les trouve. Okay. C'est extraordinaire. Écoute, ils ont démoli Vegas. Ils ont démoli Dallas. Puis ils ont battu les Kings quand même, qui étaient supposés de faire plus long que ça.
Oui, et ils perdaient 2-0 dans la série contre les Kings. Donc, ils sont 12-2 à leurs 14 derniers matchs.
Même si les Panthers sont bien forts, là, j'espère cette année que c'est l'année des Oilers.
C'est parce que les Panthers sont capables de tout sur la glace. Ils jouent un jeu hermétique en défensive. Ils ont des agressifs aussi sur le line-up.
Oui. C'est papier sablé, comme on appelle.
C'est des gars qui sont extrêmement...
Sauf que ça reste que Edmonton a un powerplay excessivement fort. Ils ont, je pense, c'est 30% d'efficacité.
Donc, le mot du côté des Panthers, c'est discipline.
L'équipe la plus indisciplinée des séries cette année. Ça va être dur de dire discipline quand t'as des comme ça, ils sont pas capables de rester disciplinés.
On frappe sur qui? On frappe sur McDavid, on frappe sur Dreisaitl, on frappe sur Nugent Hopkins.
De préférence, personne.
Tu peux frapper McDavid. Les Kings l'ont essayé de façon phénoménale dans la première série, mais le problème de McDavid pour les autres équipes, c'est que tu le frappes, ça le ralentit pas. Tu se relève, parle à personne, prends un puck, patine, s'en va au filet. Donc, c'est vraiment un joueur spécial. C'est lui et Dreisaitl sont complètement en train de dominer les séries éliminatoires. 51 points à leurs deux en 16 matchs. J'ai jamais vu, là, même à l'époque, des Wayne Gretzky, Mark Messier, Mario Lemieux et Jaromír Jágr. Donc, les gars sont... Et Pierre-Luc a apporté un excellent point. Quand tu t'es rendu en 7 en finale de la Coupe Stanley l'année précédente et que tu as vécu à quel point ça a fait mal physiquement, mais surtout mentalement et émotionnellement, tu te prépares différemment et tu arrives avec un état d'esprit.
Et tu dis en 7, mais rappelez-vous aussi que les Oilers ont compté plus de buts que les Panthers l'année passée.
Oui, et ça a fini 0-3 dans la série.
Et ça a fini, je pense, 23-18. Mm-hmm. Puis je vais citer Martin Leclerc, je vais lui donner le mérite de cette statistique-là. C'est arrivé, je pense, 3 fois en 32 occasions que ça arrive, ce genre de choses-là. Là. Donc, si tu comptes le plus de buts, techniquement, tu gagnes.
Est-ce que ça va être une série de gardiens de buts?
Ben en fait, on dirait Matt Larouche. C'est le seul endroit, à mes yeux, où les Panthers sont plus forts dans les buts.
Oui.
T'sais, les Oilers sont là parce qu'ils marquent plus de 4 buts par match. Parce que le taux d'efficacité des Oilers est de 8-9-8. Là. T'es pas supposé d'avoir 8-9-8 à rendre en finale.
Ouais,
t'es supposé d'être dans le 91, au-delà de 910 de taux d'efficacité. Fait que clairement, c'est vraiment pas à cause des gardiens de but qui sont là, c'est vraiment parce qu'ils sont excessivement productifs.
Mais est-ce que ça va dépendre de Skinner si les Oilers gagnent cette série-là?
Ben, ça va dépendre de Skinner. S'il est horrible, ils vont perdre à cause de lui, mais s'il est juste moyen, ils vont être correct.
Il est capable du meilleur
PPL, tu penses vraiment que Montembeau est meilleur que Skinner? Gros cabochon. J'avais pas lu au complet la question de Max Larouche.
Non, mais ce que j'ai essayé de dire à Max Larouche l'année passée, c'est que des gardiens de but à 3,5 millions moyens, il y en a plein dans la ligue. Ceux qui ont été avec nous pas mal tout l'hiver, j'ai toujours dit que Montembeau était un gardien de passage pour le Canadien. C'est pas un grand gardien numéro un, mais des gars comme Skinner, il en pleut, là.
Oui, vraiment. À ta question, ça va être une série de gardiens, j'ai envie de te répondre non. Parce que ça va être une série de forces offensives. Les deux équipes ont des bonnes offensives. Cela dit, les Panthers jouent mieux défensivement en raison justement de la tenue de Bobrovsky si on compare avec les Oilers. Mais si les Oilers continuent à marquer des buts au rythme qu'ils marquent des buts, Skinner ordinaire, tu sais, Skinner, mettons, moyen, les Oilers gagnent la Coupe Stanley quand même. Donc, ça va prendre une catastrophe entre les deux poteaux pour que les Oilers perdent.
Puis tu dis, Floride plus efficace défensivement, mais Dallas a compté à peine de buts quand même contre les Oilers. Vegas, ça a été la même chose.
C'est un excellent point.
Fait que c'est clairement, ils sont beaucoup mieux structurés. Les gars font des replis. Le McDavid, puis Léon, il back comme à peu près personne. Oh. Fait que clairement, puis Connor Brown est de retour.
Ouais.
Corey Perry est extraordinaire.
On surveille qui du côté des Panthers? Bon, on a parlé de Brad Marchand tantôt. Moi, j'aime bien Bennett. Barkov est, à mes yeux, un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey. Là. Autant en offensive qu'en défensive. Mm-hmm. C'est un gars qui se fait varger dessus, puis comme un peu McDavid, continue à faire son petit bonhomme de chemin.
Écoute, c'est sûr que Barkov, Bennett, Tkachuk, il y a quand même beaucoup de profondeur. Tkachuk, ouais. Marchand, quand t'as Marchand, c'est à 3, t'as une belle profondeur, mais les meilleurs sont à Edmonton. Ils sont une coche au-dessus de tout le monde. Puis Bennett, c'est vrai là, qu'il est bon, c'est vrai que tout le monde le veut. Je trouve par contre que c'est peut-être un petit peu exagéré ce qu'on entend ces temps-ci, des affaires de salaire de 10 millions, puis que tout le monde va
voir.
Hey, le gars, sa meilleure saison, il a 51 points.
Non, c'est ça.
C'est bien beau, là, je comprends du grit, là, mais du grit, ça vaut pas 10 millions. Non, non, là, tout le monde va gérer.
Là, il y a des bonnes séries, il y a 16 points, c'est le deuxième meilleur marqueur des Panthers. Tant mieux, ça arrive au bon moment pour lui parce qu'il s'en va jouer autonome sans compensation.
Dans une équipe avec les mains pleines. Mais tu joues avec Barkov, puis tu joues avec Tkachuk.
Exactement, tu joues sur l'avantage numérique avec Barkov, Tkachuk, Seth Jones à la pointe.
Parce qu'il y avait, entre autres, sur X, il y avait des débats, là, hey, Marner ou Bennett.
Non, c'est Marner, là, il a fait ça au-dessus de 100 points.
Lui, sa plus petite saison est meilleure que la. La meilleure de Bennett. T'sais,
ce qu'on surveille du côté des Panthers, les Panthers, c'est une équipe qui joue en unité. Donc, on vient d'en parler, Barkov, Bennett, Tkachuk. C'est à peu près tout le même nombre de points. Puis je pense pas qu'il y en a un qui va exploser en finale de la Coupe Stanley, comparativement à ce que McDavid et Dreisaitl peuvent faire. Mais c'est sûr qu'un joueur clé pour les Panthers de la Floride, c'est Alexander Barkov, parce qu'il vient de gagner le trophée Frank Silke. T'en parles comme un des joueurs les plus complets de la Ligue. C'est sûrement le plus complet à l'heure actuelle.
C'est pas le même style de joueur, là, mais Barkov, je l'aimais comme j'aimais Patrice Bergeron.
Ben oui, ça se compare.
C'est pas le même genre de joueur, mais plus productif.
Oui, plus productif offensivement. Donc, ça va être un joueur clé, Barkov, sur 200 pieds. Est-ce qu'il va être capable de ralentir soit Dreisaitl ou McDavid? Et est-ce que lui va être capable de contribuer offensivement en jouant contre des gars de talent comme ça? C'est vraiment la pièce maîtresse pour les Panthers.
Je vais peut-être y aller à contre-courant. Moi, j'ai l'impression que c'est les Panthers qui... Même si j'aimerais que la Coupe Stanley revienne au Canada, j'ai l'impression que c'est les Panthers qui vont gagner cette série-là. Puis j'y vais en 6.
Pourquoi t'as autant cette impression?
En raison, ils sont complets. Ils ont un bon gardien de but qui fait la job. En défensive, tant en offensive, sont capables, à peu près toute la gang, de tirer leur épingle du jeu. Le jeu est très, très hermétique. Puis ils connaissent Dreisaitl, ils connaissent McDavid. C'est des, pour la plupart, c'est des gars avec une solide expérience. Moi, je pense qu'ils vont être capables de s'adapter à la puissance offensive des Oilers d'Edmonton. Mais je vais à contre-courant parce que, tu vois, je regardais, il y avait un article de Jessica Lapinski dans le Journal de Québec qui parlait des 28 experts de TVA. Sur les 28, il y en a 4 qui donne gagnant les Panthers. Mm. Ouais, il y a des joueurs de hockey au travers. Là,
qui c'est correct, t'es pas un expert, donc tu te permets de jouer autrement.
Mais moi, j'y vais comme de l'autre côté. Là, j'ai l'impression que les Panthers pourraient gagner ça en 6, malgré le fait que j'aimerais que la Coupe Stanley revienne au Canada. De ton côté, ce serait les Oilers.
Ouais, j'aimerais ça. Puis tu sais, pour le show, on s'entend, la Coupe des quatre nations, avec toutes les tractations américaines, canadiennes.
En 6, en 7?
Ah, je pense que ça va être une longue série.
Donald Trump serait content.
Mais je vais quand même dire, je pense, les Oilers, ça va être 6 ou 7, mais je vais te dire 6.
6.
Moi, je suis avec le scénario hollywoodien. Oilers en 7, McDavid marque en prolongation.
Ils vont
avoir closé la Coupe des quatre nations et la Coupe Stanley la même année en prolongation.
Ça serait parfait. Jeff, bon entraînement.
Merci. J'ai besoin de perdre du poids. J'écoute ma
musculation, médecin. Musculation.
Excuse, Maxime Larouche nous envoie une information de dernière heure. Brock Nelson aurait signé 3 ans, 7,5 millions au Colorado. Ouh là là.
7,5 millions par année.
On a laissé partir Rantanen qui voulait 14. Mais c'est correct. C'est correct.
Claude Gilbert, merci.
Hey, c'est moi qui t'en remercie.
Ça veut dire que Bennett va faire sauter à la banque.
C'est clair. C'est clair et net. Il va avoir un bon match à soir.
Sincèrement, je verrais difficilement Bennett s'en aller de la Floride. Ils vont le garder. Ils vont le garder.
Messieurs, les pétus de brou dégagés.
Salut.
Bon match. Salut. Bye bye.
Salut, merci.
Les pétus de brou.
Comme ça, je
Bon, je suis jamais d'accord avec les experts, je sais pas pourquoi.
Ben,
je pense que c'est mon opposition systématique.
Un trouble d'opposition?
Un trouble d'opposition.
C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Ça sort de ta bouche.
Peut-être grâce à ça, je
m'opposerai pas à ça, j'ai pas de trouble d'opposition.
C'est un handicap, je suis handicapé, j'ai un trouble d'opposition. C'est grâce à ça que je fais de la radio. C'est grâce à ça aussi que j'ai eu des blondes.
Que je te vois te demander ta vignette d'handicapé, toi, je vais te le dire, prends l'handicap des autres.
Je suis un opposant systématique.
Oui, c'est ça. C'est de la protection dans ton cas.
Mais je te l'ai pas demandé, toi, Panthers ou les Oilers, puis en combien de matchs?
Ça m'a vraiment surprise que tu me le demandes pas. Je vais avec les Oilers.
En combien?
Moi, j'ai envie...
Il y a combien de matchs dans une série?
Je t'ai entendu en 6 tantôt. Donc, 7.
Ouais. Toi, tu dirais qu'il y en a 7. T'es sûr?
Ouais. Mais je suis sûr de mon hypothèse.
Fait que tu y vas avec les Oilers en 6 ou en 7. OK, tu y vas comme Coach Gilbert et Jeff. C'est bien de...
Ben oui, parce que moi, j'y vais à caractère politique, là.
Ouais.
J'ai vraiment le goût que ce soit chez nous.
chenou.
On va en faire frémir au moins un.
We the North! OK, dans l'actualité, on jase de quoi?
On s'en va à Beauport, Yannick. Il y a des délais de branchement. Ben voyons. Ça s'appelle-tu un stéréotype ou un dégoût envers Beauport?
J'adore Beauport. J'étais à l'école, pendant quelques mois, j'étais à l'école Samuel de Champlain à l'époque.
T'étais un petit bum?
Oui.
Okay. Parce que dans mon temps, il y en a beaucoup qui se faisaient transférer là. On les remettait bien droit à Samuel de Champlain.
Puis après ça, ils nous renvoyaient dans nos écoles respectives. Moi, c'était à Cardinal-Roy. J'étais un gars du centre-ville de Québec.
C'est pour ça que t'es pas resté longtemps. Mais on s'en va à Beauport pour une raison d'Hydro-Québec, Yannick. Il y a des délais de branchement qui vont faire en sorte que 36 familles de Beauport risquent de se retrouver dans la rue. C'est étrange de voir ça en 2025, mais le 1er juillet, ces 36 familles-là ont des délais qui occasionnent finalement un genre de coupure d'électricité dans leur maison. Les poteaux sont là depuis février. C'est ce qu'on dit du côté des habitants. Il y a Tommy Ouellette, qui est un des deux entrepreneurs du chantier, qui dit « Hey, on a les poteaux, là. Ils sont arrivés pour installer les fils début avril. C'est toujours pas fait. Des fois, on voit des camions, sont là 3-4 jours. Puis là, il y a un camion qui fait 2-3 gogosses. Ils repart. Ils viennent à temps perdu. C'est ce qu'on a l'impression du côté de la rue Alaska. Ça, c'est au nord de Beauport, où il y a les 36 unités qui doivent être livrées pour le 1er juillet, parce que les gens arrivent à ce moment-là. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est rendu dans les nouvelles. On a l'impression que les communications avec Hydro-Québec font pas leur chemin. On se demande pourquoi ça se passe comme ça. Je te dirais qu'il y a eu des communications avant que ça se rentre dans les médias.
Eux autres, c'est le 18 juillet, Hydro-Québec. On dit ça a été convenu avec l'entrepreneur.
Que ça serait complété.
Le 18 juillet, tout va être fait.
Au plus tard.
Mais c'est pas si pire. C'est plate parce que pour les résidents, t'arrives chez vous et t'as pas d'électricité, là, malgré le fait que tu peux peut-être t'organiser avec la maudite génératrice. Mais c'est encore des coûts supplémentaires.
Ben, imagine.
Mais
tout
il y a des cas pour Hydro-Québec, là, des fois, c'était 18 mois de branche pour brancher ta résidence. C'est parce que l'humidité, quand tu rentres dans la danse, dans ta maison, là, c'est une problématique.
Mais ça peut te défoncer des murs, puis te scraper du chibroc, puis tout ça. Puis moi, je veux dire une affaire. Je comprends que là, on est dans une histoire de déménagement, dans une période de l'année qui est, somme toute, agréable côté température. Mais pense-y, toi, tu dois quitter un endroit avec tout ton stock pour aller à un autre endroit. Puis on dit, il y a une manœuvre de 18 jours. Moi, je chialerais. Je serais même peut-être quérulante parce que je me dirais, en 18 jours, vous n'êtes pas capable de raccourcir ça depuis avril. Il n'y a personne qui est capable d'aller faire des branchements. Puis là, tu te ramasses avec 36 locataires qui s'en vont dans les unités, qui ont probablement à louer un locker, à trouver un genre de place approximatif pour 18 jours si jamais les travaux... Puis
là, mais tu peux te déménager dedans pareil. C'est juste l'hydro qui n'est pas là.
Mais là... À un moment donné, tu te laves pas, toi?
Tu
te laves où?
Je peux me laver
à l'eau
au gym.
Froide?
Au gym. Tout est prévu.
Je veux dire, c'est pas normal ce que je t'ai raconté qu'on a fait la vaisselle dans la douche pendant des années, nous autres chez nous. Là.
Ce qui est drôle, c'est que c'est un employé d'Hydro-Québec qui ont dit aux propriétaires, si vous voulez faire avancer les choses, parlez aux médias.
Ben, c'est pas drôle.
Hydro-Québec
mais c'est
est un peu fragile sur ce qu'on dit d'elle dans les médias.
Ça, c'était d'État, gouvernement.
À partir du moment où les gens disent « Moi, je vais aller me plaindre d'Hydro-Québec », ben ils sont peut-être un peu plus à l'écoute puis ils vont tenter de devancer les travaux.
Mais ça, c'est tout le temps. Hein? C'est pas juste Hydro-Québec. Je veux dire, j'en ai fait une carrière, moi, de dire à du monde « Parfait, mais on sort demain. Là. Ça fait 6 jours que je vous cours après. On sort demain dans les médias. Vous répondez ou vous répondez pas. » Souvent, ça change la donne. Mais c'est vrai pareil. On va y aller de l'avant parce que ça fait 6 jours qu'on vous court après. Mm-hmm. Les politiciens, Yannick, là, c'est que ça. Tu cours après sur une nouvelle. Pas de nouvelles, pas de réponse dans des gros dossiers. Là. Nous autres, on est chanceux, on les amène en entrevue. Il y a un peu plus de... Mais c'est drôle, ça répond quand tu vas le sortir. Mais c'est déplorable.
Al Boivin, as-tu été arrêté? Là?
Al Boivin. Mais là, il y a une autre tête de Al Boivin qui est recherchée partout. Le même genre de scénario où pan-canadiennement, on essaie de le retrouver. Mais une autre opération vise à le trouver. Il n'a pas été arrêté. Il y a plusieurs corps de police qui mènent cette opération-là. C'est dans la région de Montréal puis à Ottawa. On veut mettre fin aux activités criminelles du Blood Family Mafia. Al Boivin, il y a les rênes de ça depuis l'arrestation de Dave Turmel. Ils se sont dit, Dave Turmel, arrêtez, pic-clac, on envoie ça à Al Boivin. Je ne sais pas comment il fait. Est-ce qu'il a changé de visage? Mais ce gars-là est recherché depuis des années. Ça a commencé de façon assez féroce au Saguenay et maintenant, c'est pan-canadien. Donc, il y a eu plusieurs perquisitions, des arrestations, donc 4 pour se rapprocher de lui. L'escouade mixte de Saguenay, qui est là-dedans depuis toujours, en fait partie et est responsable de cette frappe-là. Une demi-douzaine de corps policiers, Yannick, là, pour une opération pour retrouver un individu, c'est particulier. Enquête depuis 2024. Mais non, on n'a pas la main encore sur Hall Boivin.
Il y a 250 000 sur sa tête. Puis je me souviens de la traque des gars qui s'étaient sauvés des pénitenciers par hélicoptère. Là.
Oui.
On pensait qu'ils étaient déjà rendus aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien. Ils étaient dans un condo à Montréal où on ne s'attendait pas pantoute qu'ils soient là. La meilleure place pour disparaître, là, c'est un endroit où on ne s'attend pas que tu sois là. Ouais. Montréal, là, on a beau jaser de Montréal des fois en chialant en disant pourquoi les décisions de Québec, les décisions pour les projets de Québec, ça dépend tout le temps de la ville de Montréal, mais de l'autre côté, pour disparaître là, dans une ville, là, une ville de 4 millions et les alentours, ça fait un job.
Ah oui, je comprends.
Tu sauf peux que... vivre dans, ça fait drôle à dire, mais tu peux vivre pas mal dans l'anonymat à Montréal et à Toronto. Là.
Par contre, c'est quand même un risque. Je me dis, il y a peut-être des gens qui lisent l'actualité. Il y a des photos d'Al Boivin à travers le Canada. On l'a un peu en tête, ce gars-là. Je pense qu'il y a des enfants qui dorment mal le soir en ayant ce visage-là. Tu sais, quand tu prends conscience que le mal t'entoure puis que tu vois sur les babillards des Walmart et autres des gens qui sont portés disparus ou des gens qu'on recherche. D'après moi, Al Boivin en fait faire des cauchemars à certains enfants. Le bilan de l'opération, on devrait le connaître plus tard dans la journée par les autorités. Je t'amène sinon du côté des tarifs de Trump. Là, ça défie toute logique, c'est ce qu'on dit du côté du gouvernement Legault. On dit personne n'est capable de le ramener à la raison. Ils ont beaucoup de difficultés à jaser avec lui. Même chose au fédéral pour Mark Carney. Je pense qu'il y a une certaine peur. Là, le côté de l'aluminium, de l'acier, il n'y a personne qui veut ce genre de tarif-là là, sur 25-50% de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Ça va nous scraper une bonne partie de l'économie. Tout le monde le sait. Puis on négocie dans la peur en ce moment. Est-ce qu'on avait vu ça venir? La réponse est oui. Est-ce qu'on avait travaillé assez en amont avec Donald Trump jusqu'à temps que lui décide de passer de l'avant? C'est un énergumène, c'est un électron libre, c'est dur à manœuvrer. C'est pas de la politique comme on a déjà connu.
Ouais, on l'a dit souvent, tout ce que Trump fait actuellement, ça fait en sorte qu'on se regarde en pleine face et on se dit finalement, on n'est plus capable de demander tout le temps aux grands frères de nous aider. Il va falloir diversifier nos offres. Puis François Legault, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, va aller faire un tour du côté de l'Europe avec une délégation de plusieurs hommes et femmes d'affaires pour essayer de diversifier justement ce merveilleux monde de l'acier parce qu'ils ont besoin de bâtir en Europe aussi. Donc, on peut leur shipper de l'aluminium.
Ouais, Legault s'en va à Paris.
Oui, exact. S'ils en ont besoin. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui a qualifié Trump de... Il a dit une phrase sur Trump, il qualifie Trump de taco. Trump always chicken out. Donc, il y a tout le temps... il revient tout le temps sur ses affaires. Puis, probablement que dans 2 jours, 3 jours ou 4 jours... Il va avoir parlé avec Mark Carney, il va s'être entendu avec Mark Carney, puis là, on va revenir aux tarifs initiaux.
Bien, à suivre. Il est encore entretenir ses propos pour la Chine. Il a passé aux actions, tu sais, je sais pas si c'est ça. Il a certainement allé chercher quelque chose. Si nous, on collabore encore avec la Chine, qui est pour lui en ce moment la coupure qu'il veut faire à travers le monde, je pense qu'il pourrait aller de l'avant pour nous punir. T'sais, il est capable. Lui, il va arriver à ses fins, puis il voit dans une direction tunnel. Et sa direction tunnel, c'est les États-Unis. Il n'y a plus de les Canadiens, nos voisins, nos amis. En ce moment, il veut tellement prendre l'avance économiquement sur la Chine que si nous, on continue à faire certaines alliances, je pense que ça pourrait être là son bras de fer. Si jamais j'essaie d'analyser sa psychologie politique à Trump, mais ça, je veux dire, personne n'est vraiment capable de le faire. Steve Gagnon, je ne sais pas si tu te rappelles de cet homme-là, Steve Gagnon, qui a été dans l'actualité, c'est l'homme qui est accusé de 3 meurtres après l'attaque d'Amqui. Il est absent de son procès parce qu'il s'est désorganisé en après-midi hier. Donc, il est demeuré dans sa cellule de prison de Rimouski ce matin. Il s'est chicané avec...
Le médecin.
Le médecin. Mm-hmm. Il a traité de manger de marde, puis ça n'a pas passé en cours, on s'entend. Je vous conseille ça pas du tout à personne, en fait, si vous avez à passer en cours. Là. Mais c'est l'attaque au camion Bélier, rappelez-vous, là, pour Steve Gagnon. Puis, bon, clairement, il n'est pas capable de se tenir. On a informé les 14 jurés ce matin qu'on avait pris cette décision-là. On va poursuivre le témoignage du docteur Denis Normand Boucher en l'absence de Steve Gagnon.
La théorie des procureurs de la Couronne, c'est que ce gars-là s'est servi de son véhicule pour se venger du système, entre autres du système de santé. Il est vraiment fâché envers le système. Ce que le médecin est venu raconter, c'est que quand il a rencontré Steve Gagnon, il essayait de diagnostiquer des choses chez lui et lui disait « Ouais, mais là, mon opération, ça va me prendre telle affaire. » Visiblement, il en avait beaucoup contre le système de santé, puis ce serait pour ça qu'il aurait décidé de prendre son véhicule puis de l'utiliser comme un bélier sur des individus. Malheureusement, il a tué du monde. Puis il s'est fâché hier. Le juge est revenu quelques heures plus tard en disant que c'est normal, il y a beaucoup d'émotions, puis que les 14 jurés, 14 membres de jury, d'habitude c'est 12, là, mais là, il y en a 14, puis j'ignore pourquoi, mais les 14 membres de jury se sont fait demander de retirer les images et le son qu'ils ont entendu lorsque le gars a pété les plombs.
Oui, pour pas que ça soit retenu dans leur délibération. J'ai pas le choix de te parler de Gilbert Rozon. Je l'avais gardé. C'est un gros dossier.
On va en parler avec Denis.
Ah, donc on laisse ça de côté?
Exact. On va parler avec Denis dans les prochaines secondes.
Je peux-tu te faire un clin d'œil sur quelque chose qu'on n'a pas eu le temps hier?
Encore un autre clin d'œil. C'est ton troisième depuis ce matin.
Calme-toi avec la nouvelle que je vais te livrer, là, parce que ça pourrait faire parler du monde. YouPorn, Pornhub. Accès suspendu en France dès aujourd'hui. Donc, on a décidé que c'était terminé pour les flacoteux, flacoteuses de ce monde du côté de la France. C'est suspendu. Donc, l'accès au contenu des plateformes en France, fini. C'est pour protester contre l'obligation de vérification de l'âge des utilisateurs. Vous le savez, ils sont dans l'eau chaude. MindGeek aussi, ça fait longtemps qu'on est en cours avec ça. On veut que le cadre légal soit revu, tant pour les gens qui veulent s'y connecter, donc il faut qu'ils soient majeurs, tant que pour les vidéos où on voit des gens et des gestes humiliants qui auraient peut-être été faits sans le consentement de ces gens-là, puis que ce serait à caractère de viol, d'abus et autres, et aussi des mineurs qui avaient été présents sur les sites. Donc, la France a décidé de sévir.
Merci. 11h57, on fait une courte pause et on revient. Si vous avez des choses à nous dire d'ici là, 418-971-1021, c'est par texto, on revient.
Marceau le midi.
Yes, mon
homme! Oh yes!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Denis Gravel est en place, semble très excité par le début de la série entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Je le sens, Denis, t'as de l'air prêt. Là. Est-ce que toi, t'as acheté tes chips, ta bière pour ce soir? Tout est prêt? Tout est préparé?
Le pire, c'est que j'ai relativement hâte. J'ai comme sauté une ronde, là, puis je suis dû pour du hockey et je fais partie de ceux qui ont écouté la série Face Off sur Prime Video qui raconte les deux derniers épisodes, vraiment la finale de l'an passé entre les Panthers et les Oilers. Puis moi, j'ai toujours rêvé d'aller dans les vestiaires des équipes professionnelles puis de voir comment ils réagissaient entre les périodes, après une victoire, après une défaite. Et on voit le vestiaire des Oilers après l'élimination pendant que les Panthers sont sur la glace et qu'ils célèbrent la Coupe Stanley.
C'est pas beau, hein?
Ben, ils font sortir les caméras. Tu vois qu'il y a énormément d'émotions, énormément de tensions. Puis on en a parlé avec Pierre-Aude, c'est vendredi passé, à quel point les Oilers ont traîné ça pendant une partie de la saison qui suit. Perdre en finale de la Coupe Stanley, quand les espoirs d'un pays reposent sur toi, tu traînes ça pendant un bout. Tu veux pas revivre ça deux fois. Puis pour la trame actuelle, on veut que la Coupe Stanley revienne au Canada. On veut que Connor McDavid gagne sa Coupe Stanley. Mais il y a juste une équipe sur 32 qui peut fucker des beaux narratifs de même, puis c'est les Panthers de la Floride. Donc, je veux dire, toute l'histoire est bâtie, puis on est prêt. J'ai une petite soif de hockey, pour être bien honnête avec toi, puis beau temps, pas beau temps, je pense que je sors le portable à soir, puis j'écoute ça sur la galerie des Halls.
Ah ouais, j'en disais tantôt avec nos pétus de brou, puis les deux sont... persuadé que les Oilers devraient l'emporter. Moi, de mon côté, j'aimerais que les Oilers l'emportent pour ramener la Coupe Stanley ici. Avec le tournoi des Quatre Nations, ça ferait une belle année.
Ouais,
mais
quand
les
même.
Panthers sont tellement bien bâtis que ça commence par le gardien. Après ça, la défensive, l'offensive. Barkov qui me fait halluciner. J'ai comparé Barkov, c'est pas le même style de joueur, là, mais j'ai comparé Barkov à Patrice Bergeron.
Capable
de tout faire
fiable,
sur une patinoire.
Fiable.
Toujours tranquille. C'est pas un gars qui va mettre son équipe dans l'embarras. Brad Marchand qui est sur le troisième trio.
Ben oui, tu parles d'un beau luxe à avoir d'une équipe de baveux, toi.
Ouais, Kachuk. Qui est là, ça va une super de belle soirée. Ça.
Curieux de voir l'arbitrage.
Ouais.
Parce que si on commence à laisser passer certains gestes, comme on le fait depuis le début des séries éliminatoires, c'est sûr que ça avantage les Panthers de la Floride. Mais est-ce qu'on va changer un peu le ton du sifflet et le ton des séries pour juste faire un statement à la première game que là, on va arbitrer pour vrai. J'ai hâte de voir. Ça fait partie des impondérables. La beauté du sport, hein? On sait pas.
Hey, Denis, j'ai quelque chose à te jaser. On va s'amuser un peu. En même temps, c'est pas drôle parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément respecté puis que je respecte encore aujourd'hui, là, qui a fait partie de l'univers des médias pendant des années et des années. Tout le monde connaît Jocelyne Cazin.
Ben oui.
Tu sais, c'est la personne qui a fait JE. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance de passer 60 minutes avec Jocelyne Cazin. Je l'ai adoré. Je l'ai eu quelques fois en entrevue pendant le temps qu'elle avait décidé qu'elle devenait politicienne, ce qui n'avait pas été nécessairement son meilleur coup. Là.
Elle s'était lancée pour qui?
Je pense que c'était contre Éric Kerr, de mémoire. Ça se peut-tu? Elle était pour la coalition Avenir Québec. Non, c'était pas contre Éric Kerr. C'était pour qui qu'elle se lançait?
Parce que si elle s'est lancée contre Éric...
C'était la CAQ dans Chauveau.
Dans Chauveau. Elle était pour la CAQ dans Chauveau.
Parce que si elle s'était lancée contre Éric Kerr, j'aurais pu dire que rétroactivement, on s'est peut-être trompé. Mais c'est pas grave.
Mais là, encore là, on sait jamais.
Mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Dans les dernières années, elle est rendue en Floride, puis elle fait encore quelques petits contrats, mais elle n'a plus la carrière qu'elle avait. Puis à un moment donné, ça s'est terminé avec son employeur.
Ouais.
Et je vous le dis, vous n'êtes pas prêts à entendre ça, là. C'est Radio-Canada qui l'ont eu en entrevue, puis elle s'est livrée sur son passé, puis le fait qu'elle avait perdu son emploi, puis ça lui a fait de la peine. Pascal, t'as-tu déjà pensé à virer kamikaze, toi, quand on t'a sacré dehors? T'as-tu déjà sacré dehors quelque part?
Non, c'est jamais arrivé.
Non? Comment ça, non?
Ça a pu, à un moment donné, être proche, mais c'est jamais arrivé.
Toi, t'es-tu déjà fait sacré dehors de quelque part?
J'ai eu la même job quasiment toute ma vie. Puis je suis parti parce que j'ai décidé de partir. Fait que j'aurais tendance
on
à dire non.
On sait sacré dehors, officiellement.
Je me suis fait mettre dehors. Je me suis fait... Oui, j'ai perdu ma job une fois. À la radio communautaire de Jonquière. Ils faisaient
des coupures. Tu faisais du bénévolat, puis on t'a sacré dehors.
Non. J'avais un salaire. C'était le volet payant. Il y en avait quelques-uns qui étaient payés. Première coupure de poche, j'ai perdu ma job.
Mais c'est en raison du budget.
Oui, oui.
OK, fait que c'est pas si payé. Moi, j'ai jamais perdu mon emploi non plus. Peut-être qu'un jour, ça nous arrivera parce qu'on fait de la radio. Mm-hmm. Puis la radio, c'est on
précaire.
Est susceptible de ça, pas pire. Mais j'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais détester quelque chose, mon ancien employeur, au point de commettre l'irréparable. Je vous laisse entendre cet extrait-là. C'est Jocelyne Cazin qui s'ouvre sur... les choses auxquelles elle a pensé quand elle s'est faite sacrer dehors de TVA. Vous n'êtes pas prêts, là.
Révéler quelque chose. J'étais à deux cheveux de commettre un crime. J'étais tellement, mais tellement enragée que j'ai pris ma voiture et je voulais foncer dans la bâtisse. Moi, je comprends la folie des gens. Je la comprends parce que j'ai eu quelques moments de folie comme ça. Et heureusement, la vie est bonne avec moi tout le temps, parce que j'ai jamais commis l'irréparable. J'ai freiné juste au bon moment. J'ai freiné.
Vous étiez vraiment dans votre voiture.
Oui, oui. Et puis je m'apprêtais à foncer dans l'édifice.
Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là?
Ah, j'étais en tabarouette, là. Écoutez, je trouvais que c'était d'une injustice. D'abord, je faisais du bon travail. Je travaillais des heures de fou. Moi, j'animais, je faisais les commerciaux. J'avais une autre émission le soir. Je faisais les nouvelles. Bref, je faisais, tu sais, je faisais l'horaire de fou.
Et ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle aurait demandé une augmentation de salaire, puis on dit, ben regarde, ça finit là, tu t'en vas.
Mais souvent, c'est ça le contexte, tu sais. C'est tough, là.
Permets-moi une blague. Puis après ça, j'ai une réflexion sérieuse. Par exemple, je suis content que tu nous ouvres la porte là-dessus. La blague, je suis surpris parce qu'habituellement, les gens de cet âge-là qui foncent d'un mur avec le char, c'est parce qu'ils mêlent le pédale. Maintenant, le commentaire sérieux.
Tu voulais alléger, mais je pense que ça alourdit.
Oh, come on! Hey, come on! C'est arrivé
alléger,
ici,
mais je pense
là.
Que ça alourdit.
Non, mais sérieusement...
C'est juste des chars sans oreilles, là.
J'ai vu il y a quelques années le reportage qui a été fait sur Gaétan Giroir.
Oui.
Gaétan Giroir et Jocelyne Cazin qui ont partagé l'antenne pendant de nombreuses années. Et les deux avaient un point en commun, c'est que le travail, c'était leur vie. Mm-hmm. Puis quand on dit leur vie, c'est des gens qui travaillaient des 16 heures par jour, travaillaient la fin de semaine, ils n'arrêtaient pas. Et on sait comment Gaétan Giroir, ça s'est terminé, pas besoin de revenir là-dessus. De voir, puis moi j'apprécie la candeur des gens, même s'ils disent des grossièretés, j'aime les gens qui nous disent les vraies affaires, puis je la crois quand elle dit ça. Je pense pas que c'est de l'enflure verbale, mais la réflexion que je veux amener par rapport à ça, perdez-vous jamais dans le travail à ce point-là.
Non.
Puis moi, pendant quelques années, je me suis perdu dans le travail. Je pense qu'on fait toute cette erreur-là quand... on a la chance de travailler pour notre passion, mm-hmm. mais à un moment donné, il faut se rappeler que c'est juste une job. Faut se rappeler ce qu'on est pour l'employeur. C'est une matière qui est loin d'être indispensable. Tout le monde est remplacé, puis la machine a continué de tourner. Il y a des exemples dans tous les domaines. Faut être capable de prendre du recul avant de se sentir comme ça face à un congédiement. Je trouve que c'est un avertissement. Il y a personne qui veut vivre ça. Là, tu perds ta job puis tu as le goût de foncer dans le building.
Mais c'était pas des pensées intrusives. Puis tu sais, c'est là où que, mettons, quand j'ai entendu ça la première fois, je fais « OK, là, on est dans le sérieux. Elle est vraiment vulnérable dans son commentaire. Il y a des gens qui vont écouter. Okay. » J'aurais aimé ça qu'elle dise « en passant, c'est pas la solution. » Puis elle est pas là. Mais pour Jocelyne Cazin, il y a aussi le fait, tu sais, Gaétan Giroir, comment il s'est enlevé la vie. Mm-hmm. Je l'adresse. Si vous avez besoin d'aide, un 866 appelle. Cet homme-là, elle travaillait conjointement avec lui et il y a toujours des répercussions de ça. Je pense que ça a pu peut-être l'amener dans sa tête-là. En psychologie, on le voit souvent. Puis allons plus loin. Les sportifs là, qui se définissent par leur travail depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils s'entraînent, la collectivité de ça, ça amène beaucoup de choses. Puis quand ça prend tout ton temps, quand ça arrête du jour au lendemain...
Il y en a qui ont de la misère à passer autre chose.
Oui, il y en a.
Maintenant, ils ont de l'aide, ils sont accompagnés, ils ont un entourage.
Mais juste remettre dans le contexte, c'était pas une pensée intrusive. Là. L'animateur l'a coupé parce que le bout meilleur s'en venait. Là. Elle a accéléré puis elle a freiné au bon moment.
Oui. Mais ça dit tout dans sa détresse, là.
C'est raide en sacrifice. Moi, j'ai pas de pensée intrusive. Ça n'en est pas.
Ça semble être de la détresse.
J'en avais jasé avec Audrey qui me disait, ben moi, j'en ai régulièrement. Puis ça a l'air que c'est sain d'avoir des pensées intrusives. Tu sais, des fois, quand tes enfants t'énervent, tu te dis, tabarouette, ça ferait bien de jamais les avoir faites, tes enfants-là. C'est une pensée intrusive. Tu le penses pas nécessairement, mais tu dis ça dans ta tête. Elle, c'est pas ça, là. Elle est allée en face du bureau, elle a accéléré, puis elle a freiné juste avant d'arriver dans la fenêtre. C'est ce qu'elle mentionne.
Alors que tout ce qu'elle avait à faire, c'était virer le char de bord, aller se parquer à TQS, puis elle avait une job sur un plateau d'argent. Ça,
effectivement.
Si tu veux regarder ça, je veux dire, c'était Jocelyne fucking Cazin. C'était TVA à une certaine époque. C'était Gaétan et Jocelyne. Puis après ça, moi, ça m'a surpris qu'elle ait continué de travailler tout ce temps-là. Oui. Mais moi, je te le dis, puis je trouve que c'est une réflexion qui est tellement importante. Il faut se garder au moins un bras de distance avec la job tout le temps.
Le plus jeune possible, savoir t'es qui au personnel versus le professionnel. Moi, c'est un boss qui me l'a appris.
Ouais.
Mon boss en radio, mon ancien boss là, où je travaillais avant, à un moment donné, il s'est arrêté puis il a dit « OK, je te vois, t'as 25 peut-être à ce moment-là. » Puis je partais une semaine en vacances, elle me dit « Je t'en donne une autre. » Puis il m'a envoyé deux semaines, puis il dit « Je veux que tu réfléchisses aussi à... Tu travailles tellement, t'es tellement dans ta job, t'as juste 25, je veux connaître tes passions, je veux savoir personnellement, tu t'accomplis comment aussi? » Parce que il l'a vu, puis il l'a vécu personnellement. Puis je trouvais ça intéressant que ce soit un boss qui te l'amène.
Je fais des farces à Véro depuis qu'elle joue au golf. C'est un sport de boss. Puis Véro, ben veut pas, elle co-anime le retour, ce qui est énormément de travail avec les nouvelles et tout ça. Puis elle a un rôle administratif ici où elle s'occupe de beaucoup de choses. Puis je connais Véro depuis des années. Quand elle est dans le travail,
elle est dans le travail.
Ça ne fait pas à moitié. Là.
Fait que moi, la semaine passée, quand elle me dit, j'en ai profité le premier matin qu'il a fait beau pour aller jouer un 9 trous, j'y fais 8 jokes, mais dans ma tête, je fais « ça, c'est sain ».
Exact.
Tu sais, le bras de distance que je vous parle, là, il y a peut-être des gens qui se sentent visés quand je dis ça. J'ai de la misère à me garder un bras de distance avec ma job. Ben avant de penser de foncer dans le building, là, c'est peut-être le temps de se trouver et même de se forcer des fois. Des fois, il faut se faire violence pour ça. C'est peut-être pas la bonne image là, avec l'exemple qu'on a sous les yeux.
Parce que moi, je me fais violence avant de me coucher.
D'essayer des affaires, d'accrocher peut-être à quelque chose. C'est Véro a accroché au golf. Ouais. Moi, je trouve ça beau de voir que c'est vraiment quelque chose qui la passionne maintenant. Ouais. Mais elle l'a développé pas à 20. Elle l'a développé maintenant. Il y a toujours une possibilité d'essayer de s'accomplir autrement.
Puis la vision de l'entreprise aussi, puis c'est drôle, c'est aussi un ancien propriétaire d'entreprise qui m'avait mentionné ça, tu sais. Il avait toujours dit, pour les employés, ce qui est important, c'est que les employés ne me voient pas comme un bon père de famille. Je ne suis pas un bon père de famille. Je suis, au même titre que l'entreprise, quelqu'un qui va défendre l'entreprise à tout prix.
Ouais.
Puis si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais je n'ai pas le budget nécessaire, je vais être obligé de prendre des décisions stratégiques pour que mon entreprise puisse continuer dans le temps. Fait que les gens qui me voient comme étant un bon père de famille, je n'en suis pas un.
Ouais.
Parce qu'un bon père de famille ne cancellerait pas ses enfants.
Tu sais, quand j'ai quitté mon emploi puis que j'ai vu comment mon employeur m'a traité, j'ai regardé tout ce que j'avais donné en 24 ans, j'ai mis ça dans balance puis je me suis dit « ça arrive-tu égal? » Puis la réponse, c'est non. On en donne beaucoup trop à des gens qui ne le méritent pas. gardez-vous au moins un bras de distance avec votre job, même si c'est votre passion, même si c'est la job. Il y a des gens qui abusent de ça. Il y a des gens qui profitent de ça.
T'es-tu fait dire anciennement, ben, dans ton ancien emploi, que t'étais chanceux d'être ici?
Ben oui!
Ah, mais ça, c'est le domaine. Ben oui! Ça, c'est le domaine.
Attends, écoute,
t'es chanceux.
Non seulement t'es chanceux, mais on met n'importe quel morpion à ta place, puis ça va ça continuer de job, rouler. Ben ça, oui, ça. Voyons donc.
Je pense qu'ils ont appris ça à la même école de gestion. Surtout quand on fait une nouvelle.
Mais je me trouvais chanceux aussi. Je me trouve encore chanceux. T'as une job en radio à Québec.
On est chanceux.
On est chanceux. Mais en même temps, ça veut pas dire donne-toi corps et âme, puis signe pas les contrat avec ton sang, puis non, se garder un bras de distance, c'est sain pour la santé mentale, pour la santé physique, puis je vais aller plus loin. Je pense qu'on est plus performant à un bras de distance que quand t'as tout le temps les yeux sur l'arbre puis que tu vois pas à forêt.
Il y a d'excellents patrons qui vont faire sentir qu'ils sont aussi chanceux de t'avoir dans la boîte parce qu'ils savent que de la manière...
Un coup que t'as signé, ils font ça, ouais. C'est vrai. Un coup que t'as signé à leurs conditions, ouais, ils font ça. Hey, on est vraiment chanceux de t'avoir.
Autre dossier, dans les dernières heures, on a parlé du décès de Renaud Turcotte qui s'est malheureusement tué avec un vélo à vélo,
ouais.
Qui appartient à la ville de Québec. Et la coroner avait mentionné que ce serait bien de fournir avec les à vélo les casques. Et là, on s'est posé les questions. Est-ce que... Puis posons-nous la question personnellement. Là. Mettons que je veux faire du à vélo. Mm. Est-ce que je prends le casque que la ville m'offre?
C'est parce qu'on est dans un drôle de dilemme. Hein. Et dans le cas du triste décès...
Je vais OK. Ouais. Juste quand il me donne les souliers de quelqu'un qui est peut-être mis avant... J'ai une réflexion.
Oui, mais à vélo, moi, Yannick, là, je ne le considère pas comme un sport. Là. À vélo, mettons, je mettrais le casque peut-être, puis j'aurais peut-être un petit bonnet protecteur de mes cheveux pour ne pas pogner des poux. Je ne sais pas si on peut en pogner avec un casque, mais quand j'allais au resto, moi, je le traînais là, avec à vélo. Quand j'allais au Festival d'été de Québec...
C'était ton casque.
Oui, mais tu le traînes. Au fait que je n'ai pas le droit de la porter. C'est plein.
Mais on s'est posé la question à savoir si la ville devait fournir les casques avec le à vélo. La réponse, c'est la majorité des jeunes ne voudront pas mettre ce casque-là sur sa tête. Les gens transpirent.
Oui, mais pense-y. De façon rationnelle, il faudrait qu'ils le fournissent. Parce qu'il donne des contraventions, des amendes quand tu ne le portes pas.
Je pense que le problème, c'est le double message. Puis je vais prendre un autre exemple que personne n'adresse parce que tout le monde est satisfait de la situation. Est-ce que vous connaissez beaucoup... Pensez-vous que quand un spectacle au Centre Vidéotron se termine à 20 000 personnes, tout le monde est sobre en prenant leur voiture?
Non.
OK. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais de barrage?
Parce qu'il empoignerait probablement trop.
Parce qu'il empoignerait probablement trop, ce serait pas bon pour la ville, ce serait pas bon pour le Centre Vidéotron, ce serait pas bon pour personne. Donc, c'est comme une loi silencieuse que, en sortant du show de Peter Gabriel, on fera pas souffler des ballons. J'ai pris l'exemple de Peter Gabriel, j'aurais pu prendre n'importe quel
Metallica,
autre show. Metallica, non, mais j'ai vu du monde remplir des toilettes de vomi à Peter Gabriel, puis oui, il y en a qui pensaient qu'il y avait encore 20 ans, puis
c'est
clairement,
de l'amour
c'était
liquide,
plus le cas.
Ah, okay.
Oh, c'était dégueulasse. Mais on s'éloigne du point. Dans le cas de Avelo, on veut faire la promotion d'un service. On dit que le casque est obligatoire. J'ose prétendre que 80% des gens qui utilisent le service à vélo, au moins, n'utilisent pas de casque.
Ah, c'est plus que ça.
Combien de contraventions?
Quelques-unes, mais très peu.
Il y en a donné des centaines l'année passée, je pense, si je me souviens bien. Mais tu sais, les gens sont allés en cours puis ont dit, ben, vous pouvez pas nous donner ça parce que vous fournissez pas le casque. Fait qu'ils ont perdu pour leur contravention.
Ouais. Moi, j'ai vu les à vélo au centre-ville de Québec, là, puis c'est 9 sur 10 qui n'ont pas le casque.
Mais les gens voleraient les casques de toute manière. Là. Tu vas pas mettre une chaîne après le vélo sur ton casque.
C'est parce qu'à moins de mettre ça dans ton horaire de travail, la barnouche. T'sais, à moins de mettre ça sur ton horaire de travail puis ça devienne ta routine, c'est un transport d'opportunité. Ouais. T'es un touriste ou t'es en ville pour la fin de semaine.
Le fait que c'est le fun d'avoir ça.
Tu reviens de veiller, tu vois le rack à vélo, il y a un vélo là, tu te dis tabarnouche, j'ai rien qu'à scanner ma carte puis ciao bye, je pars avec le vélo. Mais c'est pas vrai que tout ce temps-là, tu te promènes avec ton casque à ta ceinture.
Moi, je
là.
L'ai fait puis c'est un peu moins sexy là, rendu au bord. Là.
Ben, tu voulais te donner un genre, là, mais mettons...
Non, même pas.
Mais de façon générale, on s'entend que c'est pas une pratique courante. Puis je serais bien surpris que ça le devienne. Si la ville, tu sais, la ville a dit, je veux pas prendre le monde par la main, puis le problème, c'est les comportements humains. OK, c'est un argument. Dans le cas du décès, c'est un gars qui revenait de veiller, il était en état d'ébriété, il y a une liste de facteurs.
C'est correct de le mettre dans le rapport.
Mais je pense que la ville doit réfléchir. Si tu veux avoir les bons comportements, puis tu veux inciter les gens à avoir les bons comportements, je pense que la ville doit réfléchir à un système où il y aura des casques qui seront disponibles d'une façon ou d'une autre. On peut-tu laver un fond de casque comme on rince un verre au festibière?
Je pense que oui. Je pense que oui.
Quoi? Il me regarde puis il rit, non? T'es trop mal écœureux pour ça?
Ben, peut-être pas exactement de cette manière-là, mais...
Oui, puis tu sais, je prends pas le à vélo, même si j'étais au centre-ville.
T'as
je
prends
pas le à vélo. Ouais. Je trippe pas nécessairement à prendre les trucs des autres.
T'amènes-tu tes souliers?
Sachant qu'on perd quasiment 3 millions par année avec le service à vélo.
C'est énorme.
Là, on se rend compte qu'il y a une problématique. Là. On veut obliger les gens à mettre des casques, mais ils les mettent pas.
Mais
les policiers
que...
doivent donner des contraventions, mais ils se disent en même temps, c'est la ville, ça va, on va se ramasser en cour, on va être juste présenté en cour municipale pour des maudits casques sur la tête parce que le gars va contester son ticket. T'sais, c'est du niaisage pour rien. Si c'était payant, là, réellement, là, il y a une entreprise privée qui offrirait ce service-là, tout comme le gars qui est au salon de cake, qui prend les souliers puis psh, 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 pour être sûr et certain que tout soit correct quand l'autre va mettre ses pieds dedans. Mais moi, je suis un mal au cœur. Je ne mettrais pas le casque de quelqu'un qui vient de se promener en ville puis a transpiré dedans. Ça n'arrivera jamais. Là. C'est impossible. Fait que ça devrait être transféré au privé, mais ça ne se fera pas parce que le privé ne prendra jamais ça. C'est pas rentable comme service.
Ou on doit monter le prix pour que ça ressemble plus à la valeur que ça a vraiment. Mais jusqu'où tu peux monter le prix pour que ça reste abordable puis que ça reste un moyen de transport alternatif que les gens utilisent?
Moi,
c'est un gamble qui est risqué. Là.
À 140$ de mai à mai, là, ça finit mon abonnement le 25 mai dernier.
Tu le reprends-tu?
Je ne l'ai pas repris pour l'instant. Je trouve pas que je l'ai rentabilisé. Mettons, j'avais pris l'abonnement, tu peux tout le temps avec 90 minutes. Là. Je me promenais, j'ai eu du fun, mais je ne l'ai pas rentabilisé. Donc, c'était assez. Pour moi, à 140, c'était assez.
À 50$ de plus par année, je te donne une clé, une coupe de chiffon, puis accès à des casques.
J'ai mon casque, moi.
T'as ton casque,
oui,
c'est vrai.
J'aime ça le porter sur ma lit, ce que je mets sur le côté de ma hanche.
Citoyen modèle,
va.
Oui, c'est ça. autre chose que je voulais jaser avec toi, je voulais en parler avec Valérie tantôt, mais je veux t'entendre là-dessus. Le maire Marchand qui rentre dans un domaine où il ne devrait pas avoir juridiction. Là, ce qu'ils veulent, c'est enlever. Le maire Marchand, il veut enlever du projet de loi sur les sites d'injection certains critères.
Oui.
Pour établir des sites d'injection. Moi, je suis parfaitement, c'est rare, vous allez m'entendre dire ça, mais je suis parfaitement aligné avec ce que Lionel Carman veut mettre en place, c'est-à-dire tu ne peux pas mettre un site d'injection à 150 mètres d'une école. C'est logique, ça.
Ben, si on interdit à un McDo de s'installer à 200 mètres d'une école, il faut être un peu dans le même esprit de logique. Tu sais, si on veut pas qu'un McDo s'installe à 150 mètres d'une école, je pense qu'une piquerie ou un centre d'injection supervisé, ça doit être un peu le même raisonnement.
Les gens qui sont très à gauche vont dire oui, mais le jour où le truc de piquerie va être à côté de chez eux, c'est là qu'ils vont péter les plombs. Mm-hmm. Le maire Marchand dit, ouais, mais là, vous savez, il y a peut-être une rivière, tu sais. Il y a peut-être une rivière entre le site d'injection puis l'école. Tu sais, c'est de l'entrecoutage de mouches.
Écoute, on va être en désaccord parce que moi, le point que j'ai là-dessus, c'est même pas concernant les arguments que je trouve plus ou moins bons. Puis c'est-tu vraiment sur le 150 mètres d'une école que tu veux t'ostiner? Mais moi, je veux que les décisions ici se prennent ici le plus possible. Je pense que c'est des enjeux locaux. Je pense que c'est à la Ville de Québec de caler ses shots. Puis si on n'est pas d'accord avec les shots du maire, bon, on changera de maire. Le gouvernement, cette façon-là, le gouvernement provincial nous montre qu'il n'est pas capable de gérer grand-chose. Même quand les intentions sont bonnes, même quand les arguments sont bons. Je suis peut-être un peu chauvin envers mon secteur de vie. Là.
Je comprends tout ça. Mais l'Aube-Rivière, où ils l'ont bâti, moi, je la trouve super belle, l'Aube-Rivière. Mm-hmm. Puis ce qu'ils ont fait là, je trouve ça incroyable. Mais où ils l'ont bâti, ça a-tu amélioré le secteur?
Non. On a pris une mauvaise décision.
On a vraiment pris une mauvaise décision, puis c'est pas la province de Québec qui a pris cette décision-là, c'est la ville de Québec. Je comprends ce que tu dis, c'est que chacun ses chasses gardées.
Ouais.
Là, dans ce cas-ci, c'est Lionel Carman qui met ça en place, puis tu sais, des fois, ça prend des gens qui sont détachés un peu des émotions, qui se disent, ben ça va être 150 mètres d'une école et plus, ça va être 150 mètres d'une garderie et plus, mais il y a tout le temps des gens, comme le maire Marchand, qui est un peu d'accord avec le principe, mais en disant, ouais, le respect du zonage, là, si jamais il y a une petite rivière qui passe, il y a une barrière, non, ça devrait même pas être dans son champ d'expertise.
Moi, je vais y aller avec de la mathématique très simple. Est-ce que j'ai confiance au gouvernement de la CAQ? Non. Est-ce que j'ai confiance au maire Marchand? Non. Rendu là, qu'est-ce que je préfère? De la gestion provinciale ou de la gestion locale? Je vais prendre la gestion locale par défaut. Je comprends que l'argument est pas super. Je comprends que le raisonnement peut faire défaut aussi. Là, parce que, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais pour traverser les rivières, on a quelques ponts. Hein? Y a moyen. À Québec, là, ouais. On en a même rajouté un récemment dans ce secteur-là. Je veux dire, l'argument, il n'est pas yable. Mais tu comprends mon idée de gestion locale, particulièrement pour ce
c'est
genre d'enjeu.
C'est juste que ça touche la santé. La santé, c'est provincial. Fait que ça touche la santé des enfants qui sont autour, ça touche la santé des gens qui veulent s'injecter de façon sécuritaire, puis avoir des gens qui sont autour pour pouvoir les aider si ces gens-là ont besoin d'aide. Puis là, ben le maire Marchand qui veut s'immiscer là-dedans, je trouve pas que c'est une bonne idée, mais je comprends ton principe de ça devrait être une décision locale. Mais en même temps, comme tu dis, peu importe que ce soit le gouvernement fédéral, provincial ou municipal, des fois, on a l'impression qu'on est mal servi. Ouais.
Puis en passant, moi, je suis d'accord avec un McDo à 150 mètres d'une école. Je pense que ça change fuck all.
Ah oui?
Ben là...
Les enfants, ils marchent.
Nous autres, le McDo était plus loin que ça, bon, on y allait pareil.
Ah oui.
Quand on voulait un McDo, on marchait le McDo.
T'as été à Sainte-Marie-de-Beauce?
Oui.
Bon, ils ont respecté avec l'aréna, puis l'école secondaire, ils ont respecté les distances pour ce qui est des restaurants.
OK.
Qu'est-ce que ça fait sur l'heure du midi? Tous les enfants en marche jusqu'au McDo.
Oui.
Tous les enfants en marche jusqu'au IW.
Ah, mais il y a l'Uber Eats maintenant. Là. Je suis pas sûr que...
en plus, mais
honnêtement,
oui.
Honnêtement, là.
Puis Sainte-Marie, techniquement, tout est à 150 mètres de tout. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas t'en aller
moi,
dans le champ plus loin.
Moi, je trouvais ça bien
loin,
que
là.
Tu le mettes pas dans le cours d'école, mais maintenant, avec les technologies, je suis pas
oublie
sûr.
Ça. Ouais,
Denis Gravel, merci.
Ouais, merci, les amis.
On t'écoute à 14h tantôt avec Audrey et Véro. Salut.
Salut. Le Rock'n'Roll.
Si vous avez des choses à dire, il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci de nous le confirmer par texto. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Pascal!
Ouais, ben là, vous pouvez nous écrire. Merci, c'est toujours apprécié. Par contre, sur le 51, j'envoie des choses sur la route. C'est congestionné. C'est l'autoroute 40 Est, l'accès vers Duplessis Sud. C'est partiellement entravé, le véhicule lourd en panne. Sinon, du côté de la 20... Ouais, la 20 Est, pardon. Fin de la sortie, route 173 Nord. Ça, c'est la route du président Kennedy. C'est partiellement entravé. Il y a un incendie de véhicule. C'est ça qui se passait dans les dernières minutes. Les services d'urgence sont sur place. Faites attention sur les réseaux routiers. Il y a du monde. Ça sent tranquillement les congés.
Ah, quel sujet qu'on va parler dans les prochaines secondes. Beaucoup d'émotions. De un, parce que mon invité, je l'aime beaucoup et on est plusieurs à l'aimer. Je pense que vous faites partie de ceux qui l'aimaient beaucoup aussi. Le meurtrier Hugo Bernier souhaite obtenir une permission de sortir avec escorte pour visiter sa famille à Gaspé. Et hier, ben, le père de la victime, Julie Boisvenu, était à le confronter pour justement expliquer pourquoi ce gars-là, à ses yeux, était encore une problématique pour la société. C'est l'ex-sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui est au bout du fil. Pierre-Hugues Boisvenu, bonjour.
Monsieur Marceau, bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce midi.
Vous me pardonnerez, d'habitude, je demande aux gens comment ils vont, mais dans les circonstances, j'imagine que vous devez être chamboulé, Monsieur Boisvenu.
Ben, disons que j'ai rempli une partie de ma mission hier, là, de représenter ma fille Julie, représenter toutes les familles qui ont à traverser cette étape obligatoire là, de réveiller des souvenirs très douloureux, puis d'aller en parler devant le criminel, devant des commissaires, devant des gens du service correctionnel. Puis souvent, ces victimes-là sont tout seules, ne sont pas accompagnées, alors que le criminel, lui, il l'est. Donc, c'est un passage obligé, mais c'est un passage aussi qui donne l'espoir aux familles de continuer le combat devant la commission.
Julie Boisvenu aurait eu 50 ans cette année. Plutôt que de préparer sa fête, M. Boisvenu, vous avez dû confronter son tueur face à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Racontez-moi comment ça s'est passé, M. Boisvenu.
Oui, c'est effectivement, Julie aurait 50 ans cette année. On aurait fêté pas seulement... Julie, le moment qu'elle pourrait être, la femme d'affaires qu'elle serait devenue. Donc, c'est effectivement faire assassiner un enfant, c'est aussi assassiner ses rêves de la voir grandir, de voir grandir les enfants, etc. Donc, c'est tout ça qu'on apporte à la commission. C'est une partie du message aussi que j'ai adressé aux criminels. Comment ce meurtre-là a eu des impacts sur la famille, des impacts sur la communauté en Estrie, sur les amis, etc. Donc, il faut que ces gens-là comprennent parce que par un geste aussi brutal, c'est pas juste une femme qui l'a assassinée, mais c'est toute une communauté qui l'a touché là, profondément.
Vous nous touchez depuis des années, sénateur Boisvenu, à propos de cette histoire-là. Vous vous êtes battu, même la politique a fait partie de votre parcours, relié à tout ça. C'est un drame que peu de parents sont capables d'imaginer. Là. C'est épouvantable. Comment vous faites pour continuer à vous battre de cette manière-là? Au-delà du fait que c'est votre fille, au-delà de la tragédie, c'est essoufflant.
Bien, on le fait parce qu'on a, le Québec derrière nous. Il n'y a pas grand monde au Québec qui n'appuie pas la cause que je défends. On continue parce que les médias répondent toujours présents quand on a un message à livrer, comme cette semaine. On est toujours actif parce que c'est une mission fondamentale que Julie m'a donnée, une mission de vie. Et on n'a pas le droit d'abandonner parce que je pense qu'elle, si elle avait pu se sauver de sa mort, elle aurait pu, elle aurait tout fait, ou je saurais qu'elle a tout fait pour le faire. Donc, je peux comprendre aussi les derniers instants qu'elle a vécu, qui étaient des instants terribles. On peut pas devant une femme qui est baisser les bras. C'est ça qui nous motive. Et c'est des petits gains au fur et au fil des années. Je pense à la Charte des droits des victimes. Je pense à tous ces projets de loi-là que j'ai fait adopter pour mieux protéger nos enfants, mieux protéger les femmes. Et le combat doit être continué parce qu'il reste encore beaucoup à faire.
Sénateur Boisvenu, ex-sénateur Boisvenu, est-ce que vous êtes sénateur jusqu'à la fin de vos jours? Je vous pose la question.
Non, on est honorable jusqu'à la fin de nos jours, mais sénateur, c'est un titre qu'on perd dès qu'on met le pied à l'extérieur du Sénat, parce qu'on a eu 75 ans.
Pour moi, ça change pas grand-chose dans les conventions.
Oui, il y en a beaucoup encore qui m'appellent.
Oui, hein?
C'est correct.
Ouais. On va continuer. Tiens, sénateur Boisvenu, lui, il a eu une évaluation qui date de 2023 et il sera encore excité par des scénarios de viol avec humiliation. Il a encore du mal à expliquer pourquoi il a des pensées sexuelles déviantes. Ça date de 2023. Lui, il veut des sorties. Bon, ça va être des sorties accompagnées, mais n'en demeure pas moins qu'il dit qu'il n'y a aucun risque de récidive. Parfois, quand on lui demande jusqu'à 10, exemple, entre 0 et 10, les possibilités que vous récidiviez, ce serait quoi? Dans sa tête à lui, c'est 2 ou 3. C'est encore un dangereux, là.
Très, très dangereux. Il y a deux choses là-dedans. C'est qu'effectivement, vous avez raison, l'évaluation qui était faite à l'automne 2003, mais produite par Pinel en janvier 2024, a un portrait tout à fait contradictoire par rapport à sa perception que lui-même a de son processus de réhabilitation qu'il dit avoir avancé. Donc, c'est les propos qu'il tenait durant l'audiencière, ça me rappelait étrangement les mêmes propos qu'il tenait lors du procès de son procès en 2002, alors qu'il prétendait que Julie était consentante par rapport à l'acte sexuel. Il a même prétendu que la femme qui a agressé en Gaspésie en 1999 était consentante. Sa femme qui a agressé également et qui a violé, il a prétendu qu'elle était consentante. Donc, c'est quelqu'un qui a une image là, très, très, imbu de lui-même. C'est la faute des autres. Il y a une phrase qui est dite, c'est celle... Julie était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pour ça qu'il l'a assassiné. Alors que c'était lui qui était au mauvais endroit au mauvais moment parce qu'il était en libération illégale. Donc, vous voyez un peu le type d'homme. Après 23 ans, 4,5 millions qu'on a mis dans des programmes ou dans son incarcération, il est au même point qu'il est aujourd'hui. Aucun déni. Dans le fond, il est dans le déni total. Et surtout, pendant 6 heures, il aurait pu s'excuser, il aurait pu dire qu'il regrettait son geste, rien. C'est à la dernière minute l'audition, lorsque les commissaires l'ont demandé s'il y avait quelque chose à ajouter, il a juste dit « j'ai des remords pour Julie ».
L'avez-vous regardé bien droit dans les yeux?
Oui, j'ai regardé pendant les 6 heures, et lui a regardé le plancher pendant les 6 heures. Donc, il doit savoir ce qu'est la couleur du plancher.
On dit qu'il y a eu droit à une audience adaptée. Pourquoi il y a eu droit à une audience adaptée? Il semblerait qu'il y a eu certains rituels, là, et vous étiez à seulement quelques mètres de lui, là.
Parce qu'il est reconnu autochtone. Ce qu'on a appris hier, c'est que sa grand-mère serait autochtone, et aujourd'hui, toute la famille aurait eu le statut d'autochtone. Mais si je considère que tout ce qu'il nous a dit pendant 6 heures, c'était de la fabulation, je pense que ça aussi, ça peut être de la fabulation. Il y a beaucoup, beaucoup de tendance là, à voir la réalité à l'opposé de ce que nous, on voit. Et c'est pour ça ce que vous disiez tantôt, ou tu disais tantôt, que quand la commissaire a posé la question, vous représenteriez quoi comme risque si on vous remettait en liberté sur une échelle de 2, puis qui, sur une échelle de 10, puis dit 2, alors que l'évaluation de Pinel est complètement à l'opposé du spectre de la dangerosité où Pinel dit c'est un homme dangereux, c'est un homme déviant, c'est un homme qui jouit en blessant les femmes. C'est ça son fantasme dans la vie. Donc, on est quelqu'un qui n'a pas évolué du tout pendant ces 23 années-là, malgré les efforts du système de le sensibiliser là, à sa déviance.
C'est beau de s'analyser à deux sur l'échelle, là, mais dans les propos de l'homme, effectivement, je pense qu'on est capable humainement d'avoir le même raisonnement que vous. Là. Ça fait pas de sens. Il n'y a rien qui est en corrélation.
Oui, puis la commission a pris quelques minutes à délibérer, puis à rendre sa décision immédiatement dans une de ses demandes. Sa demande, c'était d'aller visiter un centre de ressourcement autochtone. Il a fait la même demande l'an dernier, ce que j'ai appris également. Je n'avais pas été informé de ça. Et la demande avait été refusée. Donc, il a été frappé par la porte d'en arrière. Plutôt que de demander un transfert dans un minimum, il a demandé une visite dans un minimum. Mais à écouter son avocat, on sait bien qu'elle, pour elle, il est complètement réhabilité. Il doit être envoyé dans un minimum pour continuer son processus, alors que ma perception est totalement différente. Il devrait plutôt retourner à la MACASA, qui est un centre carcéral pour pédateurs sexuels, et poursuivre là ses programmes. Je pense que le garder à la moitié Saint-François dans un médium ne va rien lui apporter de bon.
Avez-vous l'impression qu'on va le relâcher à un moment donné? On n'aura pas le choix. Après 25 ans, c'est un minimum, on va devoir le réévaluer?
Non, après 25 ans, il faut le réévaluer. À chaque 2 ans, il faut qu'il soit réévalué parce que c'est une sentence à sa vie.
Ouais.
Et il est remis en liberté s'il ne représente pas de risque à la société.
Donc, vous avez l'impression qu'il va rester longtemps dedans, puis vous allez probablement être là à chacune de ses présences pour la commission.
Je vais être là tant que mon souffle me permette.
Vous êtes fait fort, sénateur Boisvenu. Vous êtes vraiment fait fort, puis vous savez à quel point on vous apprécie.
C'est grâce à vous, puis c'est grâce à la population qui est derrière nous. Hein. C'est venir ce combat-là tout seul, ça peut être là vraiment épuisant, mais quand on reçoit là, des tonnes de messages, comme j'en ai reçu cette semaine, qui nous encourage à être là puis à parler haut et fort pour les victimes. Bien, c'est ça qui fait en sorte qu'on dit bon, c'est une bonne cause puis il faut poursuivre.
Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, sénateur Boisvenu, puis on se reparle dans quelques semaines.
Merci beaucoup à vous aussi puis à tous les gens qui étaient avec nous. Bonne fin de journée.
Au revoir. Avez-vous imaginé à quel point cet homme-là il est fort?
Ça dépasse l'entendement, honnêtement. C'est dur. Là. Honnêtement, impossible. C'est impossible à imaginer. Pour moi, mon cerveau ne se rend pas là.
Perdre ses enfants, c'est probablement ce qu'il y a de pire sur la Terre. Puis lui a réussi, par la perte de ses enfants, à essayer d'aider plus de femmes à être protégées dans un avenir en s'impliquant au niveau politique. C'est un gars qui est formidable. Des sénateurs Boisvenu, il en manque beaucoup en politique. Des gens avec des convictions qui sont prêts à aller jusqu'au bout.
Salutations à son sang-froid.
Ouais.
Combien de personnes se seraient désorganisées pour avoir voulu donner la monnaie de sa pièce à la 7 jours du talion à cet homme-là, entre autres, pourquoi on lui parle aujourd'hui par rapport à la mort de Julie Boisvenu, sa fille, qui est extrêmement tragique. Tu sais, quand on se met à discuter de tout ça avec des pères de famille, avec des mères de famille, rapidement, ce qui vient en tête, moi, j'ai pas d'enfant, Yann, mais si t'avais des filles, tu peux pas l'imaginer, comme, mais tu peux imaginer parce que t'as des enfants. La désorganisation mentale de dire, hey, moi, je vais vendre. Il a pas été là. Il a été capable de garder un sang-froid puis d'aller dans tout ce qui est linéaire, politique, dans la justice, de saisir avec ses yeux, tenter l'homme qui est en face de lui, qui regarde le plancher. C'est une force qui est, pour moi, au-delà de la majorité même des parents qui vivraient ce drame-là. J'ai déjà eu la conversation avec mon père qui avait dit « Si quelqu'un vous touche puis vous fait du mal dans la vie, je ne répondrai plus par mon mental. » Puis on avait dit à table « On ne sera pas mieux. » Si on est encore vivant, peu importe, là, on ne sera pas mis avec un parent en prison. Sénateur Boisvenu, Pierre-Hugues Boisvenu, le fait avec un sang-froid. Moi, je salue ça.
Hier, avec la commission des remises en liberté, là, Hugo Bernier, qui est le tueur de Julie Boisvenu, s'est présenté là avec des lunettes fumées. Et pendant les 6 heures, il avait ses lunettes fumées qui cachaient ses yeux et il regardait le sol tout en entendant sénateur Boisvenu faire un speech pour toutes les raisons pour lesquelles ce gars-là ne devrait pas être remis en liberté. Juste pour la petite histoire, pour les gens qui n'ont pas suivi le meurtre de Julie Boisvenu, elle avait 27 ans à l'époque. On se retrouve en 2002, c'est en juin 2002, et elle était avec ses amis dans un bar. Donc, elle a passé quelques heures là à avoir du plaisir. Puis quand elle est sortie au centre-ville de Sherbrooke, ben lui, elle est tombée sur son chemin. Il l'a séquestrée et violée. Puis ensuite, il a abandonné son corps nu dans un fossé. La dépouille a été retrouvée une semaine plus tard. Et ce qu'il a trouvé à dire hier, c'est que malheureusement, Julie s'est retrouvée à la mauvaise place au mauvais moment.
Est-ce que sénateur... parle de sang-froid, moi j'aurais eu de la misère.
Ce que le sénateur Boisvenu dit, c'est pas Julie là, qui était à la mauvaise place au mauvais moment, c'est toi qui étais là.
C'est toi le problème.
Parce qu'elle faisait juste vivre à travers la société. Ah non, c'est hallucinant cette histoire-là. Puis de savoir que ce gars-là pourrait retrouver un jour la lumière, puis être libre, puis se promener au travers de nos enfants, puis te côtoyer dans un bar, Pascal. Parce que Dieu sait que dans 25 ans, tu vas être encore en train de prendre un petit cocktail dans un bar avec tes chums de filles.
J'espère jusqu'à mes 85 ans.
Le moins de monde possible dans notre société-là. Il devrait être derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Midi 50, on fait une courte pause. 418-971-1021. 418-971-1021. Boulevard 102. Qui a été publié dans le soleil ce matin?
Un peu. Oui, on a vu un peu les réactions effectivement des oppositions. J'ai fait réagir là, un peu tout le monde sur... notamment, bon, il y a évidemment le manque, je veux dire, la déroute de la CAQ. Là, je pense que plusieurs retiennent. Ça ne vient que confirmer. Hein, puis c'est ça qui est dans les sondages. Parfois, c'est la récurrence. C'est une chose de dire il y a une insatisfaction, mais là, nous, c'est qu'on le mesure fois après fois. Puis quoi que fasse le gouvernement Legault, on parle vraiment de taux d'approbation là, d'en bas de 30% de gens satisfaits. Et moi, je m'étais intéressé à l'autre qui était concernant les médecins. Parce qu'on a posé la question, je trouvais ça intéressant, c'est que il reste que la population a vu quand même, c'est que bon, le projet de loi là, qui est assez dur envers les médecins, qui exige de relier, pour faire très, très court, relier une partie de leur enveloppe de salaire à la performance. Ça, les gens nous ont dit qu'ils étaient majoritairement, même si la majorité est relativement courte, d'accord avec ça. Fait que j'ai demandé un peu aux élus de l'opposition qu'est-ce qu'ils pensaient que finalement, ça, tu sais, quelque part, est-ce que le ministre Dubé a un petit peu raison quand même, dans le sens que ça résonne clairement dans la population, là, cette volonté que les médecins soient peut-être plus efficaces. Puis, effectivement, ce qu'il disait, c'est oui, les gens peuvent le penser, mais le problème, il est ailleurs, il est dans la gestion du réseau. On dirait que ça n'a pas... Ça n'a pas collé tant que ça. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont bien profité de l'occasion pour plutôt planter le projet de loi du ministre sur la rémunération des médecins.
Mais tant le gouvernement que les médecins doivent en faire plus. Quand les médias ont sorti les statistiques, on se rend compte que c'est plus dur d'avoir un rendez-vous avec le médecin le lundi et le vendredi. Certainement encore plus dur pour ce qui est de la fin de semaine. Et si tu voulais un rendez-vous le soir, c'était compliqué. Donc là, il faudrait une meilleure répartition. Mais en même temps, c'est des travailleurs autonomes, les médecins. En mesure de choisir un peu leur horaire aussi. Faut régler ça.
Ils ont fait un don d'eux par rapport aux études. Je comprends que vous dites que les études sont partiellement payées par Québec, puis vous avez raison là-dessus aussi. Mais depuis quelques jours, j'ai remarqué là, sur les spotted services de marde, spotted ci, puis spotted ça, il y a des médecins qui ne trouvent tellement pas le canal de communication pour parler de leur quotidien, qui sont en train d'écrire sur ces pages-là avec le résumé de leur journée et tout, puis dire « Nous, c'est pas nécessairement... » parce qu'on veut moins travailler, des fois qu'il y a des anicroches, c'est parce qu'on n'est pas épaulé. Ils ne sont pas épaulés par le gouvernement. Ils ne sentent pas qu'il y a des conversations de qualité de travail, de façon de travailler. Puis, ils mettent tout ce qu'ils ont fait dans la journée puis disent « Je ne veux pas que ma flamme s'éteigne. »